Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h, Mathieu Béliard.
Est-ce qu'on va trop vite en besogne? La question autour de Notre-Dame de Paris avec cette tribune inédite, hein, 1170 conservateurs, architectes, professeurs, des professionnels du patrimoine qui interpellent le président de la République. Monsieur le président, ne dessaisissez pas les experts du patrimoine. Autour de la table avec nous, Oriane Beaufils, conservatrice du patrimoine au château de Fontainebleau. Vous avez signé la tribune, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous. Alexandre Gady, historien du patrimoine et président de l'association Sites et Monuments, bonsoir.
Bonsoir.
Et Didier Rickner, vous l'avez signé aussi, hein, Alexandre Gady,
professeur de la Sorbonne.
Et puis Didier Rickner, que j'appelle quand j'ai une question sur le patrimoine.
Il y a
vous et Stéphane Bern, en réalité.
Je suis flatté.
Journaliste et directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art.com. Merci à vous trois d'être avec nous. Avant notre discussion, parce que de débat, je vais le préciser tout de suite, vous êtes plutôt d'accord tous les trois. C'est plutôt une discussion pour que nos auditeurs puissent comprendre quelle est votre démarche. Et nous dirons aussi clairement qu'il a été très difficile d'avoir une voix officielle du côté de la majorité ou du gouvernement. Comme quoi, il y a un sujet, il y a en tout cas une problématique. On va en parler, évidemment. Mais d'abord, Benjamin Muller. Bonsoir, Benjamin.
Bonsoir, Mathieu. Bonsoir à tous.
Tout autre chose, Benjamin.
Ah oui.
Comme chaque jour, on voit avec vous comment les médias ont traité un sujet de l'actualité. Aujourd'hui, on revient sur la magnifique victoire rennaise en Coupe de France face à cette piteuse équipe du Paris Saint-Germain.
Comme vous le dites bien, on va effectivement revenir sur ce match où deux angles sont possibles. Angle numéro 1, on se focalise sur la victoire des Bretons et non sur la défaite des Parisiens.
La Coupe de France, de malédiction.
Oui, au coup de sifflet final, comme ici sur Europe 1, les commentateurs se sont un peu emballés pour Rennes. Normal, c'est une sacrée surprise. Sur France 2 aussi, ils étaient à fond.
Là, c'est une vraie communion entre le public, les 30 000 supporters qui ont fait le déplacement. On va pouvoir chanter, hein, fameuse galette saucisse parce qu'ils l'ont mérité.
Ah, ça, on en entend parler, de galette saucisse depuis samedi, ça, on peut pas y souper. Et depuis samedi aussi, on entend beaucoup de supporters rennais contents, parfois même tellement contents que ça en devient inquiétant.
Champions, on est là, on est dans le match, on a géré, on a gagné, on a fumé, on a terminé 0-2. On
Allez messieurs, asseyez-vous, ça va bien se passer. Globalement, le supporter rennais a une qualité indéniable quand il gagne, il a la victoire discrète.
Ouais, c'est hier, on l'a gagné.
Voilà, une belle analyse du match, merci monsieur. Alors, qui dit supporter de foot content, dit généralement troisième mi-temps un peu arrosé. Quand en plus, le supporter est breton, bah, ça peut arriver que les interviews ne soient plus claires, quoi.
Ça fait longtemps qu'on a voulu cette coupe. Après 48 ans, on l'a eu.
Ah oui.
Ah, c'est un joueur immense.
Et on a battu le Paris Saint-Germain. Belle victoire. Bravo, monsieur. Sur France 2, ils ont trouvé des supporters. On dirait Omblin à 5h du mat' la nuit où elle a fêté son bac.
Ça fait 3 fois bien. J'ai vu, j'avais 6 ans la première fois. Et aujourd'hui, bah, c'est juste magique. Bah, on gagne.
Mais oui, c'est juste magique. Bonne soirée, madame, et bonne gueule de bois. Donc oui, ce qui saute aux oreilles, c'est que le supporter rennais est radiophoniquement un bon client, comme on dit chez nous. Angle numéro 2, ne pas se concentrer sur la victoire de Rennes, mais sur la défaite de l'équipe de Paris.
Sauf qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans votre phrase,
ah bon,
c'est le mot équipe.
Ah.
Parce que précisément, ce n'est pas une équipe.
Voilà, visiblement, Pascal Praud nous écoute en direct, tant mieux. Donc oui, c'est vrai que depuis samedi soir, le PSG prend cher, comme on dit trivialement.
Une nouvelle remontada, ce mot qui colle à la peau du PSG en France et maintenant dans le monde entier.
Mais qu'est-ce qu'il a besoin de le rappeler, bordel? Ah, on est à l'antenne, merci monsieur le journaliste de France Télévisions. Allez, un mot d'un grand fan du PSG, un certain Alain Finkielkraut sur CNews.
Ça a été un week-end assez difficile pour les amoureux du PSG.
Ah oui, j'ai eu du mal à m'en relever, mais enfin voilà, il y a du soleil, alors ça va.
Mais oui, il fait beau, on s'en fout du foot, c'est que du foot, n'est-ce pas monsieur?
Ouais, enfin!
Mais oui, enfin, il fait beau, j'imagine, c'est de ça dont il parlait.
Merci beaucoup, Benjamin Muller. Il est 19h25, vous êtes sur Europe 1, puis on va oublier cette nouvelle remontada, hein, Rennes-Montada, comme disait Athènes Ben Arfa, un peu revanchard en sortant de ce match. Merci Benjamin, à demain. 19h25 sur Europe 1, reconstruire Notre-Dame de Paris en 5 ans. Est-ce qu'on va trop vite en besogne? Le débat à suivre, restez bien sur Europe 1.
Europe 1.
Je vous attends au 39-21 pour échanger avec mes invités Didier Rickner, Oriane Beaufils et Alexandre Gady. A tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et avec vos invités ce soir autour de la table. Oriane Beaufils, conservatrice du patrimoine. Didier Rickner, journaliste directeur de la rédaction La Tribune de l'Art.com. Et Alexandre Gady, président de l'association Sites et Monuments, professeur à la Sorbonne.
Merci à tous les trois d'être avec nous ce soir. Est-ce qu'on va trop vite en besogne dans la reconstruction de Notre-Dame de Paris? Monsieur le Président, ne dessaisissez pas les experts du patrimoine. Tribune à dans le Figaro, 1170 professionnels du patrimoine, parmi lesquels des des enseignants, comme vous êtes, Alexandre Gadi, assez libre de parole, et puis d'autres qui dépendent directement du ministère de la Culture, et pour qui c'est pas si évident de s'exprimer de cette manière. Didier Rickner, plus de 1100 signatures sur cette tribune parfaitement inédite. Alors je vais me répéter, mais c'est jamais vu sur un sujet comme celui-ci.
C'est du jamais vu en 15 ans de tribune de l'art. Dieu sait si j'ai de temps en temps essayé de mobiliser sur certains sujets pour lesquels tout le monde était d'accord, mais ils ne voulaient pas parler parce que devoir de réserve. Mais là, je crois qu'il y a quelque chose au-delà du devoir de réserve. C'est ce que j'ai écrit dans un article, c'est qu'il y a dans la loi une obligation de refuser des ordres, un devoir de désobéissance si une mesure met en danger l'intérêt public. Et manifestement, cette loi qui est prévue met en danger l'intérêt public. Donc, ils sont parfaitement dans la loi, en fait.
Alexandre Gadi, cette mesure, cette loi prévue, on va revenir dessus en détail, met en danger l'intérêt public ?
C'est-à-dire que ce qui n'est pas très clair dans la démarche du gouvernement, c'est que donner un cap, c'est bien, mais proposer pour tenir ce cap un certain nombre de dérogations à tout ce qui existe. C'est-à-dire que, en quelques mots, si vous voulez, on a l'impression que le ministère de la Culture n'existait pas, que la Direction Générale du Patrimoine n'existait pas, qu'il n'y avait pas de budget, puisqu'on a fait l'aumône immédiatement, qu'il n'y avait pas d'experts, qu'il n'y avait pas de commission des monuments historiques qui travaille depuis 1837, que toute cette expérience-là disparaissait en une phrase du président. Et donc, c'est vrai que je comprends qu'il y ait quand même une certaine forme d'angoisse, d'autant que la plupart des choses prévues par la loi existent déjà. Par exemple, le fameux établissement public ad hoc pour Notre-Dame. Il y en a déjà deux dans le ministère qui sont chargés de faire de la maîtrise d'ouvrage. Donc pourquoi recréer encore une machine évidemment très lourde, parce qu'un établissement public, ça ne se crée pas comme ça en claquant dans les doigts. Et donc pourquoi, au fond, ne pas utiliser les procédures traditionnelles, courantes, qui ont fait leur preuve sur d'autres chantiers ?
Oriane Beaufils, sur cette question qui est posée, je reprends juste les mots d'Emmanuel Macron à peine plus de 24 heures après le démarrage de cet incendie. Sa volonté de reconstruire la cathédrale, reconstruire, c'est important, les mots ont un sens, plus belle encore dans un délai de 5 ans. Ce que je disais avec certains de nos auditeurs au 39-21, et d'ailleurs vous allez intervenir si vous le souhaitez, c'est que on ne peut que se réjouir de cette dynamique enclenchée par le président de la République, de cette volonté politique.
On peut surtout penser que sur le coup de l'émotion, on a envie de se dire on va la reconstruire, elle sera plus belle pour rassurer. Après, le mot de reconstruire s'applique à un édifice qui se serait effondré. Ce n'est pas le cas. La cathédrale tient debout. Ça, c'est la première chose. Plus belle encore, c'est un peu ambitieux, c'est un peu présomptueux, c'est un peu... Plein de choses, ça ne veut rien dire, en fait, plus belle encore. Et puis, en 5 ans, c'est se fixer une deadline. Il n'y a pas de deadline, surtout 24 heures après un sinistre. On a l'impression d'avoir même pas pu faire le deuil de ce qui s'était passé, ça c'est la première chose, et même pas pu faire de diagnostic. Vous n'allez pas à la pharmacie acheter des médicaments avant d'avoir eu le diagnostic de votre médecin. Je sais bien que maintenant, il y a Doctissimo, mais enfin, quand même, on préfère l'avis réel d'un médecin. Et cet avis, on ne l'a pas.
Didier Rickner.
Oui, c'est tout à fait vrai. Emmanuel Macron, effectivement, a pu agir sous le coup de l'émotion, mais depuis, il n'a pas bougé. Je n'ai pas entendu le président de la République, je n'ai pas entendu le Premier ministre, je n'ai pas entendu le ministre de la Culture dire « Ah bon, on a été trop vite, il faut se poser ». Au contraire, il continue. Ils se taisent maintenant, d'ailleurs, parce qu'ils sont un petit peu ennuyés, je pense, de cette fronde qui n'est pas seulement nationale, je le souligne, qui est internationale également. Ça, c'est très important aussi.
On va y venir.
Donc voilà, je suis d'accord, évidemment, avec ce qui vient d'être dit.
Alors, précisément, quand Emmanuel Macron prend la parole, je vais vous dire, je ne le fais pas souvent, mon premier sentiment, je me dis, il promet 5 ans, mais ce sera peut-être 6, ce sera peut-être 7, mais l'important, c'est d'enclencher cette dynamique. Et puis, on sait... quand on calcule après rapidement, que dans 5 ans, il y a les JO à Paris 2024. Ça ne doit pas entrer en ligne de compte, Alexandre Gadi ?
Non, parce que objectivement, ce sont deux événements radicalement différents. Dans un cas, on a un monument malade, blessé après l'incendie, qu'il faut restaurer, refaire vivre, à qui il faut rendre cette splendeur qu'on a tous aimée jusqu'au 15 avril dernier. Et puis après, il y a la grande messe du sport international, qui a ses vertus. Mais les deux choses sont complètement différentes en timing, en philosophie, en spiritualité. Et objectivement, pour un fan de sport qui va venir soit derrière sa télé, soit venir à Paris, que Notre-Dame soit finie au début de l'année 24 ou à la fin de l'année 24, qu'est-ce que ça peut bien changer ?
Didier Rickner ?
Oui, 5 ans, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Si Emmanuel Macron a dit cela, c'est qu'un peu avant, Anne Hidalgo a dit 5 ans pour les Jeux Olympiques. Elle était plus franche, qu'Emmanuel Macron, qui peut-être avait un petit peu honte de dire 5 ans pour les Jeux Olympiques, donc il a dit 5 ans. S'il s'agissait de donner un cap en disant il faut aller le plus vite possible, le mieux possible, mais dans le mieux possible, il y a possible. Et ce n'est pas possible en 5 ans, pour des tas de raisons qu'on pourrait éventuellement détailler, mais qui sont simplement le temps même que la cathédrale se stabilise, qu'elle sèche, qu'on fasse des études, etc. Ça va prendre plusieurs années. Donc les personnes raisonnables disent en 10, 15 ans, peut-être 10 ans si on va vite, si on va bien. En plus, en 5 ans, ça veut dire qu'on va très vite. Donc on risque de faire très mal. Et surtout, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de corps de métier en même temps sur la cathédrale. Or, j'ai pu voir lors d'enquêtes sur des incendies que le fait de faire travailler tout le monde en même temps, c'est une cause d'incendie. Donc est-ce qu'on veut que la cathédrale brûle une deuxième fois? Elle ne s'en remettrait pas.
Auriane Beaufils, j'insiste beaucoup sur les 5 ans, sur le discours d'Emmanuel Macron. Ce qui vous pose problème quand on lit cette tribune dans le Figaro aujourd'hui, c'est pas tant ce discours que la loi d'exception qui est promise par la suite.
La loi propose un dispositif, effectivement, comme le disait Alexandre Guedi, propose un nouveau dispositif qui paraphrase ce qui existe dans la loi, mais avec une manière d'imposer les choses qui ne suit pas les procédures. Pourtant, la France a été pionnière dans ces procédures, dans la législation sur les monuments historiques. Donc, en fait, c'est plus incompréhensible qu'autre chose. Puis juste sur les 5 ans, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, cette angoisse de 2024, ça veut dire que voir une cathédrale en travaux, c'est un drame. Ça veut dire qu'un chantier, c'est affreux, que c'est une verrue. Est-ce que ce n'est pas aussi une preuve de dynamisme? C'est étrange.
Alors, petite parenthèse, parce que ce n'est pas l'objet de notre débat ce soir, mais j'ai vu qu'avait été évoquée l'idée de rouvrir la cathédrale Notre-Dame de Paris pendant les travaux, avant que ces travaux ne soient terminés. Est-ce que ça vous semble être une bonne idée, une idée dangereuse? J'en profite juste avant de marquer une première pause pour faire un tour de table sur ce point-là. Alexandre Guedi.
Disons que c'est une chose qui s'est développée depuis quelques années, c'est l'idée d'un chantier visitable. Donc, on connaît des grands chantiers en France où on a mis un dispositif dans les échafaudages d'accès du public aux travaux. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment voir ça, aiment voir les artisans au travail, etc. Ça se fait beaucoup dans le monde anglo-saxon.
À Barcelone, on a une cathédrale en chantier permanent.
Voilà, la Sagrada, etc. Et donc, si on va construire pour protéger Notre-Dame, à la fois la solidifier et la protéger des éléments, un énorme échafaudage parapluie. Cet échafaudage peut être l'occasion aussi de prévoir ça. Il y a plein de solutions qui font que ce chantier ne sera pas, effectivement, comme le dit Auriane, ce n'est pas forcément une verrue dans Paris. Ça peut être un endroit extraordinairement pédagogique où on prendra le temps de faire ce qu'il y a de mieux. Moi, ce qui m'a frappé dans les 5 ans, j'y reviens, parce que c'est pas tellement 5, ça se trouve on y arrivera en 4, ça se trouve ce sera 7, mais c'est que ça n'a pas de sens de dire ce chiffre maintenant. Hein. On peut pas faire l'ordonnance avant le diagnostic.
19h35. Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1. Sur ce débat, je vois que Christian veut intervenir depuis la Loire au 39-21. On va le prendre en direct avec nous dans quelques secondes.
Votre grand journal du soir sur Europe avec Mathieu Béliard et avec vos invités jusqu'à 20h. Alexandre Guedi, président de l'association Sites et Monuments, professeur à la Sorbonne. Didier Rickner, journaliste directeur de la rédaction latribunedelart.com, et Auriane Beaufils, conservatrice du patrimoine.
1170 experts du patrimoine qui signent cette tribune. Auriane Beaufils, nous parlions hors antenne de l'unanimité dans le monde du patrimoine, contre cette volonté d'aller vite et de s'affranchir de certaines normes.
Une chose qu'il faut souligner, c'est qu'il y a à peu près 400 signataires qui sont conservateurs du patrimoine, attachés de conservation, architectes des bâtiments de France, des employés du ministère de la Culture. C'est énorme, hein, c'est presque, non, c'est pas tout à fait la moitié, mais c'est pas très loin de la moitié, du tiers. C'est un chiffre énorme pour des professions qui restent normalement assez réservé. Ça montre bien qu'il y a une inquiétude et un souci de placer la conscience patrimoniale plus haut que toutes les autres.
Je précise, quand vous dites que ce sont des professionnels qui d'ordinaire sont plus réservés, je précise que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que beaucoup ne parlent jamais parce qu'elles dépendent, ces personnes, du ministère de la Culture. Et qu'aujourd'hui, je le rappellerai encore une autre fois avant la fin de l'émission, nous avons eu le plus grand mal à avoir une personne qui vienne du ministère de la Culture pour défendre justement ce projet d'Emmanuel Macron. Impossibilité totale, on ne nous répond pas, on nous rappellera, c'est comme ça.
Parce que je pense que ceux qui seraient amenés à aller défendre ce projet, d'abord ne le penseraient pas, ils ne seraient pas d'accord, ils iraient en mission du gouvernement. S'il y a un tiers qui ont signé, je peux vous dire que les deux autres tiers, soit ils ont eu un peu peur, soit ils n'ont pas été joints, mais ils ne sont pas pour. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas signé, mais c'est vraiment une unanimité. Moi, j'ai pu le constater. Je connais des gens qui n'ont pas signé parce qu'ils n'ont pas été joints ou parce qu'ils se sont réveillés trop tard, mais qui voudraient le signer maintenant. Moi, j'ai des gens qui me disent « on va signer, on veut signer ».
Oriane Bofis, unanimité à l'international aussi.
Oui, il y a eu des signatures de très grands représentants de musées internationaux, de directeur émérite du Metropolitan Museum à New York, Philippe de Montebello, c'est quand même pas rien, un des premiers signataires en plus, des conservateurs du musée du Prado, des plus grands professeurs et anciens conservateurs de musées au Victorian d'Albert Museum, au British Museum, enfin vraiment au Kunsthistorisches Museum.
Comment on l'explique ça? Parce que Notre-Dame, c'est une vitrine de la France, parce que c'est un des monuments les plus visités au monde, comme nous l'avons beaucoup rappelé, ou est-ce que c'est parce que précisément la France a su préserver son patrimoine, Alexandre Gadi?
C'est aussi, je pense, d'abord, bien sûr, il y a l'émotion autour d'un monument phare de l'histoire culturelle mondiale, mais il y a aussi, je pense, et moi j'ai parlé beaucoup avec des collègues étrangers qui ont signé la tribune, il y a aussi leur étonnement devant la marche des choses françaises. Là, il faut sortir de la boîte franco-française, c'est la monarchie républicaine. Dans aucune démocratie adulte, vous avez un président de la République qui fixe des termes à une reconstruction d'un édifice, qui se trompe, il nous fait un cours sur Notre-Dame, il dit il n'y avait pas de flèche sur Notre-Dame au XIIIe siècle, première nouvelle. Voyez. Donc il y a une confusion extraordinaire au sommet de l'État. Ben, bien sûr, mais il dit qu'il n'y avait pas de flèche dans le projet d'origine. Enfin, on croit rêver. Comme historien, je suis un peu réservé, mais encore une fois, ce qui frappe, c'est cette monarchie républicaine. Alors c'est vrai que nous, on est un peu habitués. Hein. On est habitués à ce que le président de la République fasse tout. D'ailleurs, vous avez vu, la tribune lui adressait comme on adressait un placé au roi. Hein. Ah, sire, si vous saviez. Bon, ça, c'est la culture française politique, si vous voulez. Mais c'est vrai que de l'étranger, c'est encore plus étonnant à voir. Et nos collègues étrangers nous disent mais qu'est-ce qui vous arrive? Attendez, qu'est-ce qui se passe?
Alors déjà, dans notre système politique, et ça dépasse clairement la question du patrimoine, beaucoup de pouvoir du côté de l'Élysée, mais
beaucoup
en plus, ce que vous
lui
reprochez, Alexandre Gadi, c'est de s'asseoir sur les règles qui existent,
mais c'est-à-dire
qui
en
sont censées contrôler ce pouvoir.
Mais surtout, ce sont les règles que lui, comme président de la République, est censé notamment connaître, parce que c'est lui qui est le patron de tout. C'est-à-dire, il a des ministres qu'il a nommés, le ministre de la Culture. Alors, le ministre de la Culture, on ne l'entend pas, parce que je pense qu'il est très embarrassé, parce que d'abord, il y a eu Berne, ensuite, il y a eu Georges Lain, et à chaque fois, on a l'impression qu'il y a des morceaux du ministère et de la politique régalienne du patrimoine qui sont mis en jeu par l'État avec ce fameux système disruptif. Mais il y a un moment où, à la fin, tout est cassé, quand même.
La Constitution, moi j'ai relu la Constitution à cette occasion, je n'ai vu nulle part dans la Constitution que le président de la République est chargé de restaurer les monuments historiques. Mmh. Il y a des gens pour ça, et même si effectivement il y a une exception française dans ce qu'on voit, quand même la Constitution est là, le président de la République n'est pas chargé de ça.
Mais bon, vous lui reprochez de faire de la politique au président de la République, vous en faites aussi, on est entré dans le jeu politique forcément sur cette question.
Moi ce que je voudrais dire pour revenir sur cette tribune et qui me semble vraiment très important de souligner, c'est de souligner aussi la jeunesse de ceux qui ont signé. C'est-à-dire qu'on dit toujours que le patrimoine c'est les vieux conservateurs qui sont réactionnaires, qui n'aiment que les vieux trucs. Tous les élèves conservateurs, les jeunes, ils ont 25 ans, qui sont encore à l'école du patrimoine, ont fait une tribune aujourd'hui soutenant celle qui a été faite dans le Figaro. Quand vous regardez les noms de ceux qui ont signé, notamment les premiers qui ont signé, c'est toute la jeune génération. C'est-à-dire ce sont ceux qui sont en risque. Hein. Ce sont ceux qui ont leur premier, leur deuxième poste aujourd'hui et qui peuvent se faire taper sur les doigts.
Mais alors juste qu'on soit bien d'accord, ce débat, j'en profite du coup, Oriane Bofis, ça n'est pas celui des modernistes contre les conservateurs.
Pas du
ça
tout.
Ce n'est pas celui de reconstruisons à l'identique
non.
ou alors faisons une flèche
faire.
En vert.
Non, ça c'est aussi un débat tragiquement, à mon avis, inutile d'opposer encore les uns et les autres alors qu'il y avait un consensus autour de Notre-Dame, parce que là on parle de choses qui sont tellement lointaines, ça n'a pas de sens. La tribune, elle ne dit pas ça, elle dit pas ça n'empêchera pas demain de faire une flèche contemporaine. Dans l'architecture des monuments historiques, on a fait plein de contemporains dans l'ancien, il ne faut pas nous faire croire quand même, ce n'est pas nouveau, il ne faut pas exagérer. Depuis la guerre de 14 et les grandes restaurations des cathédrales, on a fait beaucoup de choses très originales et très intéressantes avec des matériaux complètement neufs et contemporains. Donc ça c'est encore un faux débat. La charpente en béton de Reims, les charpentes en métal à Chartres au 19e siècle, en fonte à Rouen. Je veux dire, objectivement, là encore, on nous fait prendre des choses très anciennes pour des choses très nouvelles. Le nouveau monde, il faut qu'il regarde de temps à autre un petit peu ce qui s'est passé avant.
Juste un bémol, mais c'est vraiment un bémol. Effectivement, sur la charpente, il faut se poser la question des matériaux. Même pour la flèche, il faudra se poser la question des matériaux. Parce que la flèche est une des raisons pour laquelle l'incendie a été aussi grave et elle est tombée, elle a brûlé. Moi, je suis pour la flèche, je pense qu'effectivement, il faut se poser pour la charpente, il faut se poser la question. Pour la flèche, je dirais, c'est trop tôt pour se poser la question, mais quand on se posera la question, il faut quand même se rappeler que le monument est classé, monument historique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et la flèche également est classée, elle a été construite en 1860, on a classé le monument en 1863, ça veut dire que la silhouette de Notre-Dame est protégée. Donc je pense qu'il faudra quand même retrouver cette silhouette. Et imaginez quand même, on est 2 semaines après l'incendie, il y a 3 semaines, quelqu'un aurait dit « Je veux construire une nouvelle flèche sur Notre-Dame et on va la faire plus belle, etc. » Tout le monde lui aurait rayonné. Ça aurait pu être un poisson d'avril. Moi, j'ai fait un poisson d'avril une fois. On va faire transformer Notre-Dame en centre aquatique. On n'y est pas loin. On n'est pas loin. Si vous voulez, c'est n'importe quoi. Il faut quand même voir que c'est n'importe quoi.
Alors, juste d'un mot, je rallume mon micro, ça marche mieux. Viollet-le-Duc, dont on a beaucoup parlé pour sa flèche, on lui doit en fait aussi beaucoup. Et là, je l'ai découvert d'une certaine manière grâce à votre tribune. On lui doit beaucoup en termes de préservation du patrimoine.
C'est très ambigu. Alors voilà, enfin un point de désaccord. Viollet-le-Duc, c'est le père du système français de la restauration, qui est un système très interventionniste, et qui a été fondé pendant longtemps sur une erreur complète de perspective qu'a corrigé la Charte de Venise en 1964, qui est un texte international que la France a cité. Et cette erreur de perspective, c'est la pureté du monument. C'est-à-dire, Viollet-le-Duc a procédé à la purification, non pas ethnique, mais archéologique. Et notamment à Notre-Dame de Paris, quand il a gagné le concours en 1843, il a dit au jury un gros mensonge, il a dit « je garderai toutes les étapes successives de la cathédrale jusqu'à nous inclusivement, parce que ça fait partie du monument ». Ça, c'est ce qu'on pense aujourd'hui. Naturellement, une fois qu'il a été choisi, il a fait exactement l'inverse, et il a mis en pièces tout ce qui avait été fait à la Renaissance, au XVIIe, au XVIIIe, et il a regothicisé la cathédrale partout où il lui semblait qu'elle ne l'était plus assez. À tel point que pris d'hubris, décidément dans ce dossier il y a beaucoup d'hubris, eh bien il a fait cette flèche qui était beaucoup plus haute et beaucoup plus lourde, qui a été techniquement très difficile à monter, pour laquelle il a même modifié l'architecture de Notre-Dame, plutôt que de refaire la petite flèche en bois du XIIIe siècle qu'on connaissait et qu'il avait d'abord imaginé de refaire.
Ariane Beaufils.
Bon, non, que tout vous a été
d'accord.
Non, mais je pense juste une chose, c'est que l'ambition de Viollet-le-Duc n'était pas celle qu'un architecte contemporain aujourd'hui. Il pensait vraiment faire du Moyen-Âge, en fait, et faire même mieux que le Moyen-Âge, avec ce fantasme de l'état initial, un monument tel qu'il aurait pu être s'il avait été le monument gothique idéal.
Didier Ricknell.
Alors je pense que finalement on va être d'accord, parce qu'au XIXe siècle, Viollet-le-Duc faisait du Viollet-le-Duc, il n'y avait pas les mêmes lois qu'aujourd'hui. Si Viollet-le-Duc venait travailler aujourd'hui, je lui dirais va travailler à côté. Mais Viollet-le-Duc existe. Viollet-le-Duc a quand même un intérêt artistique. Ça fait longtemps que Viollet-le-Duc a été quand même réhabilité. Il y a eu des expositions. La flèche était belle. Il y a des belles sculptures, etc. Donc il est protégé monument historique. Tout cela est protégé monument historique. Faut le savoir. Maintenant, je pense que ceux qui nous traitent de réactionnaires, ça arrive souvent, eh bien, en fait, ils ont une vision 19e siècle. C'est-à-dire qu'ils veulent tout refaire. C'est plus l'optique aujourd'hui. C'est plus l'optique aujourd'hui. On ne travaille plus comme Viollet-le-Duc qu'aujourd'hui.
19h45.
Europe 1.
Vous restez bien sûr Europe 1, le débat qui continue jusqu'à 20h. Et Christian, qui est en attente depuis tout à l'heure, promis, je prends Christian tout de suite. Restez bien sûr Europe 1 et je vous attends au 39-21.
Vos invités, Mathieu Béliard, jusqu'à 20h sur Europe 1. Ariane Beaufils, conservatrice du patrimoine. Didier Ricknell, journaliste, directeur de la rédaction La Tribune de l'Art.com. Alexandre Gady, président de l'association Cité Monuments et professeur à la Sorbonne. Et vous réagissez au 39-21.
Alors, juste avant de prendre Christian, d'un mot, quand on dit, parce qu'on emploie ces expressions un peu facilement désormais depuis le 15 avril, quand on dit reconstruire à l'identique, ça veut dire quoi? C'est reconstruire le 19e siècle? C'est reconstruire le 13e siècle?
Le dernier état connu, dit la Charte de Venise, donc ce serait l'état 15 avril 18h40, avec une ambiguïté dans à l'identique, ça peut être la forme, par exemple la toiture de Notre-Dame, sa forme est donnée par les pignons en pierre qui ont survécu, donc ce sera le même triangle, mais ça peut être aussi une question de matériaux. Est-ce que c'est la forme à l'identique avec des matériaux contemporains? Est-ce que c'est la forme à l'identique avec les matériaux à l'identique? Vous voyez, donc il faut faire attention parce que c'est une formule effectivement qui a l'air pratique, mais qui cache plusieurs subtilités dans l'histoire de la restauration.
Didier Ricknell.
Mais il va de toute façon falloir attendre, parce que c'est des débats qu'on ne devrait finalement pas avoir, parce que est-ce que la charpente pourra être lourde ou pas? Est-ce que Notre-Dame n'est pas trop fragilisée pour avoir une charpente lourde? Donc ça va jouer sur les choix.
Et c'est le temps de ces débats, notamment qui empêche une reconstruction en 5 ans, Ariane Beaufils. C'est que ces discussions, il faut les avoir, en fait.
Tout à fait. Il faut les avoir dans une ambiance sereine, dans une atmosphère sereine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de pression ici ou là sur la prise de décision, sur toutes ces choses-là.
Christian est avec nous depuis la Loire. Bonsoir, Christian.
Bonsoir.
Je vous prie de m'excuser. Je sais que vous avez attendu un petit moment. Je vous avais sur mon écran, mais le débat est passionnant. Et vous voilà avec nous autour de la table, mon cher Christian. Est-ce qu'on va trop vite en besogne en annonçant Notre-Dame de Paris reconstruite en 5 ans?
Moi, en fait, la question que je me pose, c'est que j'entends beaucoup de procès d'intention, en fait. On a un président qui a dit que ça serait bien de la faire en 5 ans, qui a fait un projet de loi pour encadrer les dons, et je crois qu'au niveau des dons, on est déjà à 1 milliard, donc ça donne des moyens. Et j'entends beaucoup de gens qui expliquent pourquoi ils vont pas y arriver. Moi, j'aimerais entendre des gens qui nous expliquent pourquoi ils vont y arriver.
Mais Christian, ce qui inquiète mes invités, justement, je vous garde en ligne, hein, Christian, hein, vous avez attendu bien assez longtemps pour ça. c'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on y arrive en 5 ans, Alexandre Gadier.
C'est-à-dire qu'on y arrive bien, et donc si c'est 6, ça sera 6, parce que c'est le monument qui commande. Il faut écouter la cathédrale blessée, c'est elle qui va nous dire. Donc il ne faut pas aller à une date précise, il faut aller au mieux. On ne peut pas une deuxième fois se tromper. L'incendie est déjà une erreur grave. On aurait pu éviter cet incendie. C'est un accident idiot qui a détruit la charpente et la flèche. Donc ne nous donnons pas les moyens.
On attend l'enquête,
moyens.
Évidemment, aussi, pour savoir.
Oui, mais l'enquête, elle part évidemment du constat que ce n'est pas un attentat, mais que c'est bien un accident. Et cet accident, malheureusement, les pistes, c'est plutôt des choses un peu... Voilà, qui auraient pu tout à fait être évitées. Donc ne nous donnons pas le risque de faire une seconde erreur. C'est ça que nous disons. Ce n'est pas plus, en fait.
Christian.
Oui, non, mais ça, je l'entends bien, et ce discours-là, moi, il me plaît bien. Mais ce que j'entends beaucoup, c'est la considération sur les Jeux Olympiques. On prête des tas d'intentions au président, on lui fait un gros procès d'intention, d'accord ? Alors moi, je préférerais entendre un discours qui dit, on va essayer, et puis si ça prend 6 et si ça prend 7, ça prendra 6 et 7. Mais mettons-nous au travail et tout. Là, je veux dire, pendant, j'ai écouté votre débat, pendant 10 minutes... Il a pris cher, le président, sur ces fameuses... Alors, on est même allé chercher la Constitution en disant qu'il n'était pas architecte des monuments de France.
Mon cher Christian, vous me donnez une occasion merveilleuse de le rappeler. On n'a trouvé personne pour venir défendre la ligne gouvernementale sur ce point-là. Tout le monde était très gêné par cette tribune de plus de 1100 professionnels. Je rappelle son caractère inédit. Vous vouliez peut-être répondre, Oriane Boffi.
Oui, je voulais juste dire que la loi ne propose pas uniquement l'allocation de fonds. S'il s'agissait juste de dire « on va reconstruire Notre-Dame rapidement », mais faire une loi disant qu'on va ne pas utiliser l'intégralité de l'appareil législatif qui existe en France pour le faire et qu'on peut avoir des dérogations pour absolument tous les codes, l'urbanisme, l'environnement, le patrimoine, c'est quand même autre chose. C'est pas uniquement allouer des fonds et vouloir faire bien avec une bonne intention, c'est vouloir faire sans nous, sans les autres.
Codes, des critères, des règles et finalement on est dans le discours anti-normes, quoi. Il y a trop de normes dans ce pays. Là, appliqué à Notre-Dame, vous dites attention.
Oui, d'autant plus que n'importe quel maire de n'importe quelle petite commune, quand il veut restaurer son église, il va avoir toutes les normes qui vont s'appliquer, et c'est très bien, parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Et tout d'un coup, il va voir le plus grand monument de France que l'État possède, et l'État va faire n'importe quoi. Et demain, l'État va venir lui dire « Attention, là, faut pas faire ça. » Mais comment peuvent-ils comprendre ? C'est très dangereux aussi pour toute la législation sur le patrimoine.
Il faudrait dire aussi qu'on se propose de déroger au code des marchés publics qui a été réformé il n'y a pas si longtemps, et ça pose un problème que le Conseil d'État a déjà soulevé dans son avis rendu mardi dernier avant la présentation du texte au Conseil des ministres. Est-ce qu'en ce moment c'est le bon signal de faire une loi dérogatoire au code des marchés publics ? Vous avez vu que la Cour des comptes s'est immédiatement saisie du dossier en disant qu'elle surveillerait tout ça de très près. Ça me paraît tout ça excéder les besoins aujourd'hui. Que Notre-Dame a tout ce qu'il faut dans la législation et dans l'administration française. Les contribuables, on en parle, évidemment, nous sommes tous des contribuables. Eh bien, le ministère de la Culture, ce sont des fonctionnaires qui sont payés par l'État, par les Français, pardon, pour faire ce travail-là aussi. C'est difficile pour eux d'entendre que finalement, on va les mettre de côté alors qu'ils ont une expérience, une habitude, une intelligence collective qu'on voudrait ici voir mise en œuvre.
Vous parliez des communes, quand elles veulent restaurer, qui ont tout un tas de règles qu'il faut respecter. Vous le disiez aussi, c'est quelque chose de souhaitable. Je me souviens de la loi Elan, la loi logement présentée il y a un an, qui avait suscité une grande colère dans le monde du patrimoine, avec un peu moins d'émotion et de reprise que pour Notre-Dame de Paris.
Clairement.
Ça, vous l'aurez aussi constaté. Mais finalement, on est dans ce discours un peu disruptif d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'est pas un peu, excusez-moi l'expression, en train de bousculer votre petit monde de conservateurs, conservateurs, si j'ose dire, d'amateurs du patrimoine, professionnels.
Je suis désolé pour l'auditeur de tout à l'heure, mais il va encore prendre cher. Parce que Emmanuel Macron, depuis qu'il est arrivé, ne cesse de détricoter les lois patrimoniales. Il y a encore un décret dont pourra peut-être vous parler Alexandre Gadi, qui est en préparation, qui va contre les paysages classés. Donc il y a eu effectivement la loi Elan, il y a maintenant cette loi d'exception. On a vraiment l'impression que c'est open bar.
Alexandre Gadi ?
Oui, alors c'est là peut-être pour ne pas faire que de la politique anti-Monsieur Macron, on est quand même, le Nouveau Monde est tout à fait dans la continuité de l'ancien. C'est-à-dire que ça fait nous une quinzaine d'années qu'on regarde un peu comme le lait sur le feu la législation française sur le patrimoine qui a subi un certain nombre de petits coups de canif d'une chambre à l'autre, d'un gouvernement de droite à un gouvernement de gauche. Il y a une espèce de continuité assez forte et Monsieur Macron arrive à la fin de ce cycle et il tape un tout petit peu plus fort que les autres. Le décret qui est en ce moment à la signature du Premier ministre et qui doit être publié avant le mois de juin, ça a été très vite, ça a duré 6 mois. Il s'agit de déconcentrer les autorisations de travaux dans les sites classés. Les sites classés, ça dépend d'une loi très importante qui a protégé une grande partie des paysages français, 1930, une loi majeure de protection des paysages. Et on nous explique aujourd'hui qu'on va déporter la décision ministérielle. Il y avait qu'un tiers des dossiers qui montaient au ministère, avec une commission supérieure des sites, quelque chose d'assez lourd et important. Et on va mettre ça au niveau du préfet de département. Et on nous dit que c'est pour rapprocher la décision du terrain. C'est une formule qui est très jolie, mais ça veut dire surtout qu'on va mettre, évidemment, des appétits énormes autour de ces territoires qui sont les plus beaux, parce que justement, ils sont protégés depuis très longtemps. Donc, ce sont des endroits où il n'y a pas de construction. Et par exemple, sur la Côte d'Azur, je prends un exemple complètement au hasard, sur la Côte d'Azur, il y a une pression foncière qui est un tout petit peu plus forte, mais aussi dans le Val-de-Loire. Je crois que notre auditeur est du Val-de-Loire. Là, on va voir des projets et pour un préfet de département, dire non à un grand élu, c'est plus difficile qu'un ministre.
Un dernier mot, Oriane Beaufils, si on peut résumer cette démarche qui est la vôtre et celle de ces 1170 personnes qui ont signé cette tribune adressée au président de la République, c'est si ça doit mettre 15 ans, ça mettra 15 ans. Il faut prendre ce temps et respecter les règles telles qu'elles ont été décidées par le passé.
Tout à fait, et voir que si l'intégralité de la communauté scientifique est capable de se rassembler autour d'un texte de cette manière, c'est bien qu'il y a quand même une forme de consensus, et que si tant de conservateurs, de fonctionnaires sont capables de sortir de la réserve, c'est bien qu'il y a une véritable nécessité. Elle ne peut pas franchement être ignorée.
Merci beaucoup. Merci à vous trois d'être venus expliquer cette démarche. Vous l'aurez compris, ce n'était pas forcément un débat. Je remercie Christian qui était en ligne avec nous. Ce n'était pas forcément un débat puisque nous nous sommes trouvés face à une impossibilité, celle de recevoir des personnes pour défendre ce projet de loi voulu par Emmanuel Macron et son gouvernement pour la reconstruction de Notre-Dame. Merci à vous trois. Didier Rickner, journaliste, directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art.com. Merci d'être venu dans notre studio ce soir. Oriane Beaufils, conservatrice du patrimoine au château de... On dit conservatrice.
On peut dire
qu'on a féminisé aussi dans ce secteur. Je vous taquine. Alexandre Gadi, professeur à la Sorbonne, président de l'association Cité Monument. Merci beaucoup.
Merci.
Merci mille fois à vous trois. Et j'espère que vous avez appris des choses, vous toutes et tous qui nous écoutez depuis le début de cette émission. C'est quand même l'essentiel. 19h56, Karima Charny, bonsoir.
Bonsoir à tous. J'ai appris beaucoup de choses, Mathieu.
Comment ça va, Karima?
Très bien, et vous?
Pas trop mal. Qu'est-ce qu'on écoute pour attaquer la semaine?
Alors, le saviez-vous, aujourd'hui, nous sommes le 29 avril et aujourd'hui, c'est la journée internationale de la danse. Alors on va célébrer cet art avec en musique, bien sûr.
Je me suis dit, c'est soit une valse, soit Whitney Houston.
C'est obligatoirement Whitney Houston.
Ouais, c'est ça. Karima Charny en musique jusqu'à 22h sur Europe 1. Une très belle soirée en perspective. À demain, Ombline.
À demain, Mathieu Béliard, 17h. À tout de suite avec Isabelle Millet pour l'information sur Europe 1.
Europe 1.